Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie d'ATH.
Bonjour.
De Dwayne.
Hello.
Et de Mordren.
Salut tout le monde.
Au sommaire de l'actualité, cette semaine, nous vous parlerons de Diablo. On enchaînera ensuite sur le nouveau jeu de 3D Realism. Nous évoquerons également les nouveaux jeux annoncés par Dear Villagers. Nous parlerons de Ready or Not, du gameplay de Conan Unconquered et de Marz, de From Software qui a des idées qui m'attristent, de Devil May Cry 5 Non, je détaillerai plus tard, parce que sinon je vais m'énerver maintenant, on va pas commencer à s'énerver tout de suite dès le début du podcast, ça va pas le faire. On évoquera également les licenciements chez Blizzard, et enfin, on terminera par tirer sur l'ambulance Anthem, parce que vu que tout le monde le fait, il n'y a pas de raison qu'on le fasse pas, hein, voilà. Moi aussi, je veux ma part, laissez-moi un peu s'il vous plaît, merci. Bon, allez, c'est parti, on va commencer, messieurs, dames, avec Diablo qui sort sur GOG. C'est l'annonce surprise de cette semaine. Bon, ça y est, je pense que le bilan financier de GOG est assuré pour ce début d'année, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, c'est d'autant plus surprenant qu'apparemment, ce ne sera pas la seule licence de Blizzard qui débarquera sur GOG, puisqu'il est également question de Warcraft 1 et 2. On n'a pas encore de date de sortie, mais la hype est puissante, n'est-ce pas? Alors, juste une précision, il y a Ars Technica qui s'est posé quelques questions, qui s'est dit, mais quand même, c'est bizarre, Activision Blizzard qui accepte de sortir un jeu en DRM free, mais que se passe-t-il? Du coup, ils sont allés voir Blizzard, et ils leur ont posé la question, et il se trouve qu'on leur a répondu. Diablo, c'est un des rares jeux qui n'a pas l'infrastructure nécessaire pour fonctionner avec le Battle.net actuel. Du coup, ils se sont dit, merde, c'est con, la règle actuelle chez Blizzard, c'est que les jeux qui sont disponibles chez nous doivent fonctionner avec Battle.net. Comme ça nous fait chier que le jeu ne soit pas disponible, et puisque chez GOG, là, ils ont l'air tellement motivés pour rebosser sur le jeu, on va vendre le jeu chez eux plutôt que le sortir chez nous, parce qu'après tout, le jeu, il fonctionne pas avec Battle.net. Donc, autant qu'il soit disponible quelque part, et ce quelque part, ça sera GOG. Donc, pour être clair, Diablo 2 sur GOG, n'y comptez pas, parce que Diablo 2, lui, pour le coup, il fonctionne avec Battle.net, mais par contre, Warcraft 1 et 2, voilà, ils font aussi partie de ces jeux qui ne fonctionnent pas avec Battle.net, donc on les retrouvera en DRM free chez GOG, et ma foi, ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, c'est une putain de bonne nouvelle. Alors par contre, juste une petite critique, 9,99€, s'il y avait l'extension, je dirais ok, mais là il n'y a pas l'extension, alors on va me dire l'extension, oui, elle n'a pas été développée par Blizzard à l'époque, oui, mais il se trouve que la boîte, je crois que c'était Sierra, il me semble, qui avait bossé dessus, au fur et à mesure des fusions-acquisitions avait été acquis par Activision. Donc normalement, voilà, il devrait avoir les droits. Hein. Je trouve ça un peu chéro, même si c'est vrai qu'il y a quand même eu du taf, notamment pour que le jeu tourne sur Windows 10. Il y a quand même du taf derrière, hein, mais c'est juste que je trouve ça un peu chéro pour ce que c'est.
Parce que d'ailleurs, voilà. Toi, tu l'as acheté le jeu sur GOG.
Oui, parce que je voulais quand même soutenir l'initiative pour montrer que le public est présent. Et surtout quand même, voilà, Diablo, c'est le patrimoine du jeu vidéo pour moi. Et je trouve ça important que ce jeu soit disponible en DRM free, tout simplement. Je précise pour terminer qu'il y a deux versions du jeu qui sont disponibles quand tu le télécharges. T'as l'ancienne version où tu peux jouer en multijoueur. Et t'as la nouvelle version, on va dire, où tu peux pas jouer en multijoueur en ligne, mais le mode LAN fonctionne, par contre. Voilà. Juste pour terminer les précisions.
Ouais. Et d'ailleurs, à ce propos-là, il y a un gros encart dans le papier d'Ars Technica qui vous déconseille de utiliser cette version-là pour jouer en ligne, parce que le jeu est sorti en 1996 et à l'époque, il y avait quand même moins de gros risques de piratage de PC. Il se trouve que cette version-là, a priori, met quand même en danger votre ordinateur si vous voulez jouer en ligne avec l'ancienne version de Battle.net. si vous voulez le faire, sachez que c'est à vos risques et périls.
Bon, sachant que de toute façon, même si vous voulez le faire, c'est pas sûr que ça marche, parce qu'il faut ouvrir un port sur le PC pour que ça marche efficacement, ce genre de choses, donc bon.
Mais voilà. Pour ceux qui nous écoutent et peut-être qui voudraient replonger dans l'expérience Diablo, pour No Foro 99, est-ce qu'il y a eu un travail sur les textures ou bien c'est le jeu de base tel qu'il était?
Alors, c'est vraiment le jeu de base tel qu'il était. Ils ont appliqué un espèce d'upscaling qui est pas trop dégueulasse.
Ouais.
Mais bon, c'est pas non plus ce qu'avait fait un fan avec Beelzebub. C'est un mod qui est assez connu. Par contre, juste une précision. Pour ceux qui seraient tentés de télécharger Beelzebub pour le faire fonctionner avec cette version, je rappelle Beelzebub, c'est un mod HD, mais qui fait aussi des changements au niveau de l'interface ou ce genre de choses. Si vous voulez l'expérience originale Diablo, ne téléchargez pas Beelzebub. Parce que Beelzebub fait des modifications en profondeur du gameplay qui font de Diablo 1 une expérience qui se rapproche plutôt du 2. D'ailleurs, c'est par là que je voulais terminer. Il y a un certain nombre de personnes qui ont critiqué cette sortie en disant « Oui, mais franchement, pourquoi jouer à Diablo 1 quand on a Diablo 2, quoi ?» Eh bien, je répondrai à ça que bah tout simplement parce que c'est pas les mêmes jeux, connard. Non, mais en vrai, quoi, c'est des jeux, en termes de gameplay, qui n'ont rien à voir. Alors certes, je peux comprendre qu'on n'apprécie pas le gameplay de Diablo 1, qui est un gameplay assez posé, lent. Moi, il y a un truc qui me irrite sur Diablo 1 et que j'avais complètement oublié, c'est que t'as pas de bouton pour courir. Et que le personnage dans Diablo 1, il est lent. Mais quand je dis qu'il est lent, il est vraiment lent, quoi. Le fait est que c'est un gameplay qui n'est pas pareil et qu'il y a des gens qui apprécient ce gameplay-là, qui est différent de celui de Diablo 2. Donc oui, pour moi, rien que pour ça, ça vaut le coup de jouer à Diablo 1 pour se faire une idée du jeu qui a en quelque sorte fondé le genre du hack and slash, quoi. Alors, c'est un truc sur lequel on pourrait discuter, mais clairement, Diablo, c'est le jeu emblématique qui a mis le hack and slash sur les rails, quoi. Rien que pour ça, pour moi, c'est un jeu qui fait partie du patrimoine ludique, et il faut s'y essayer pour se faire une idée de ce que c'est, et je trouve ça bien qu'il soit disponible en DRM free.
Et puis il y a aussi la question de la nostalgie, la découverte, l'histoire du jeu vidéo, comme tu l'as dit, c'est un jeu qui a été monumental à son époque, donc si tu veux y jouer, il faut mieux y jouer dans les conditions de l'époque, plutôt qu'un espèce de remake, enfin un remake de Diablo 2, quoi. C'est l'expérience originale qu'on retient.
Après, Beelzebub est intéressant, mais moi je vous conseille d'y jouer après avoir fait une première run, surtout que Diablo en plus c'est pas un jeu qui est long. Donc c'est vraiment un mode qui est extraordinaire, hein. Il y a un taf dessus qui est incroyable, mais c'est un jeu qui est différent. Donc moi je vous dis, faites une première run sur le jeu de base, et puis ensuite faites-vous plaisir avec les modes. Voilà. Bon messieurs, on va enchaîner sur un autre trip nostalgique. Alors avec celui-là, j'ai peut-être être moins sympa. Vous allez voir pourquoi. Donc, il y a 3DRISM qui a fait un teasing cette semaine pour son nouveau jeu, Wrath, Aeon of Rin. Qu'est-ce que c'est? C'est un FPS rétro sur le moteur de Quake. Un FPS, ma foi, qui a l'air vachement péchu. Comme 3DRISM sait très bien les faire. Je ne trahirai aucun secret en disant que Iron Maiden, qui est dispo sur Steam actuellement, qui est un autre FPS rétro, est très apprécié par la communauté. Maintenant, je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais moi, il y a un truc qui m'agace. C'est les jeux qui font rétro en 3D. Et pourquoi ça m'agace? Parce que... Putain, sérieux, quoi. Autant je peux avoir un certain respect pour les jeux en pixel art, parce que le pixel art, c'est un truc qui demande vraiment du taf. Autant, moi, je suis désolé, le rétro 3D, surtout les débuts de la 3D comme ça, non seulement je trouve ça dégueulasse, mais en plus, degré d'effort zéro. Ça me dit d'autant plus rien que je suis désolé. L'un des arguments qui est avancé pour ce look rétro, par certains, c'est de dire, faire des jeux qui sont à jour techniquement, ça coûte un bras, etc. Non, écoutez là les mecs, on leur demande pas de faire le dernier Doom, on leur demande pas de faire le prochain Rage. Ce qu'on leur demande, c'est de faire un jeu actualisé techniquement, et je suis désolé, on le verra avec le prochain jeu qu'on va évoquer. Il est tout à fait possible de faire un jeu avec un look stylé, avec des techniques actuelles, sans que ça ressemble à un FPS des années 90.
Voilà. Le meilleur exemple, c'est Shadow Warrior. C'est un jeu qui est pas très grand budget, mais qui a quand même une technique plus actuelle que ce qu'on voit sur ce jeu-là. et ça passe beaucoup mieux déjà, parce que les débuts de la 3D, moi, c'est une période que j'aime beaucoup parce que je l'ai connue. Mais là, je trouve que c'est quand même un portage, enfin, un jeu fainéant sur ce qu'ils amènent. J'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus de travail, que ça soit rendu visuel. Je demande pas un jeu ultra beau, je veux pas qu'il me fasse le prochain GTA, mais je veux juste quelque chose qui soit plus actuel niveau technique. Là, c'est entre la Nintendo 64 et la PlayStation 2, c'est quand même assez dégueulasse, quoi. Ça donne pas envie de jouer, quoi.
Je suis plutôt d'accord. Après, au-delà des aspects techniques, c'est vraiment juste une partie. Pour prendre un gros exemple, c'est Zelda Breath of the Wild. La technique est pas folle, mais la DA, en fait, rattrape tellement que derrière, on arrive à faire des choses pas mal. Donc après, au niveau de RAF, enfin, c'est là, on est sur, effectivement, de la 3D qui est assez dégueulasse, on est d'accord. Derrière ça, il y a aussi un certain côté joué, en fait, sur cette espèce de nostalgie qu'ils ont réussi... Oui, vas-y.
Ouais, justement, tu vois, c'est ça qui m'énerve, c'est que, enfin, ça, c'est un choix purement marketing pour moi, en fait, tu vois, c'est, on te vend un jeu nostalgique. C'est un trip nostalgique, ce jeu, en fait, tu vois. Et, je suis désolé, est-ce qu'on peut pas faire des jeux inspirés du gameplay de l'époque, mais qui est pas la gueule d'un jeu de 1990? Et d'ailleurs, tu parlais de direction artistique. Excusez-moi, la DA, la Metallica, voilà, est-ce qu'on l'a pas vu 3 milliards de fois dans des jeux de ce type, et est-ce qu'on peut pas se renouveler un peu aussi à ce niveau-là, quoi?
Ah, justement, mais après, malheureusement, enfin, c'est comme ce débat qu'on a sur le pixel, enfin, c'est pareil, c'est, il y a des gens qui font du pixel paresseux, il y en a d'autres qui taffent et qui font des trucs hyper polished, donc c'est vraiment toujours ce débat, c'est pas forcément ce que tu utilises, mais plutôt la façon de l'utiliser, quoi.
Bah après, moi, je pense que pour ce jeu-là, parmi nous tous, on n'est pas le public visé par ce jeu. Peut-être que y a des gens qui ont nostalgie pour ce type de 3D là aussi, hein. C'est pas incompatible.
Ouais, parce que tu vois, le truc c'est que qu'on soit nostalgique des FPS dans ce style, c'est-à-dire, tu sais, des FPS avec un level design hyper labyrinthique où tu te perds dans la carte, où tu prends plaisir à apprendre par cœur le level design, tu sais, pour optimiser tes trajets, etc.
Ouais.
Moi ça je comprends, parce que c'est des FPS qu'on ne fait plus. Et qui, à mon sens, sont vachement plus intéressants que pas mal de FPS qu'on fait aujourd'hui. Par contre, j'avoue que j'ai un mal fou à comprendre comment on peut avoir de la nostalgie vis-à-vis de ces 3D-là. Bah après, je pense que c'est des choses qu'on peut pas expliquer, tu vois, mais c'est un feeling. Mais j'avoue que moi, quand je vois ça, j'ai plus une réaction de rejet qu'autre chose, en fait, très clairement.
Et moi, je suis entièrement d'accord avec toi, et bah dites-nous dans les commentaires si vous êtes pas d'accord, et on sera ravis de débattre avec vous là-dessus. Mais pour l'instant, enfin, nous, on voit pas l'intérêt que ce jeu peut apporter, mis à part peut-être retrouver, t'as dit, les sensations de perte dans les niveaux. Mais voilà, ça aurait été mieux d'avoir cet aspect-là, plus un côté, voilà, à Shadow Warrior, parce que comme je l'ai dit, c'est pas un jeu qui a coûté extrêmement cher. Je pense qu'il y avait moyen de faire un entre-deux, parce que là, c'est vraiment le grand écart. Tu joues un jeu de 2019, et là, tu reviens vraiment en 96, et c'est assez compliqué, quoi.
Bah, d'ailleurs, juste une petite pub au passage, j'en discutais il y a pas si longtemps avec LKLBD, on parlait des jeux chinois, qui sont disponibles sur Steam, notamment. Et il y a deux jeux qu'on pourrait mettre en avant. C'est d'un côté Bloody Spell, qui est un action RPG à la chinoise, et de l'autre Bright Memory, qui me fait justement pas mal penser à Shadow Warrior, parce que, tu sais, il a des contrôles très punchy. Enfin, il y a des choses qui ressemblent pas du tout à FPS, notamment toute la partie au corps à corps, etc. Ce qui est le cas aussi de Shadow Warrior. Je pense que tu pourras en attester, ATH. Enfin, c'est des jeux qui ont une technique actuelle, qui doivent avoir un budget de chinoiserie, quoi, si je puis me permettre. Mettre ainsi. Et c'est des jeux qui sont super jolis, quoi, enfin qui ont une identité visuelle. Pourtant, ça, à mon avis, c'est pas des jeux qui ont coûté un bras.
Surtout aujourd'hui, avec la facilité des moteurs actuels, type Unreal Engine 4 ou bien le CryEngine, tu peux avoir des rendus 3D tout à fait honorables, sans pour autant te prendre la tête sur bosser un moteur. Il suffit juste de payer la licence, ou de rétribuer un certain pourcentage sur tes ventes en fonction de le type de contrat que t'as choisi. Par exemple, Outlast, qui n'est pas un FPS, mais qui est un jeu d'horreur. Franchement, pour un jeu indépendant de ce budget-là, j'y ai joué, j'ai trouvé le jeu très correct visuellement.
Oui, et puis regardez Ghost of Tell dont j'avais parlé ici, qui sublime. Bon, après, le mec, c'est un ancien de chez DreamWorks, hein, donc tout le monde n'a pas le talent de ce monsieur, n'est-ce pas? Mais voilà, enfin, il est possible de faire des choses très jolies avec un budget qui est faible.
C'est ça.
Et d'ailleurs, mon cher Dwayne, nous allons maintenant parler de deux jeux à petit budget, n'est-ce pas, qui nous viennent d'un studio qui a récemment changé d'identité. Et il y en a un parmi eux, notamment, dont on va parler, c'est Recompile, qui, vous allez voir, vient un peu en contradiction avec ce que je viens de dire sur le FPS de 3D Realms.
Exactement. Donc c'est Playdus qui maintenant a changé de nom. Donc Playdus, je rappelle, c'est la partie édition du label Plugin Digital, un label d'édition français qui devient maintenant Dear Villagers. Ils étaient sur deux secteurs, donc à la fois les jeux sur PC et console. Dernièrement, ils ont édité Away, Journey to the Unexpected de Aurélien Regard. Ils avaient aussi des jeux mobiles un peu plus narratifs. Et là, en fait, ils changent de nom, ils deviennent Dear Villagers, et ce changement de nom vient avec un changement de philosophie. Et maintenant, ils vont exclusivement s'occuper de faire des jeux un peu plus core gamer, donc sur PC et console. Et donc là, ils ont annoncé Recompile, comme le tyran l'a dit, qui là est un jeu de feed-in, qui était en fait celui qui avait fait Sublevel Zero et Tiny Keep, qui était plus des roguelike. Et là, en fait, ils passent sur du Metroidvania en 3D. On va jouer un virus qui va venir hacker en fait un système informatique. On a des espèces de parties un peu TPS à l'épaule, donc je trouve ça assez intéressant. Et le second, c'est Sorgebringer, qui là est un jeu donc français justement. Donc c'est les mecs de Flyhawk Games qui avaient fait Neurovoider, qui était un twin stick shooter. Enfin moi j'avais pas trop accroché, mais il y avait eu des assez bons retours. Et là, on est sur un truc vraiment, si vous avez fait Celeste ou Towerfall, on est vraiment sur ce style au niveau du design, sauf que derrière, on est vraiment sur de l'action. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que ça vous inspire, Recompile?
Déjà, un Metroidvania en 3D, c'est suffisamment rare pour que je le note, parce que c'est dingue le nombre de Metroidvania en 2D qui existent. Par contre, il y a personne qui s'est jamais fait chier à essayer d'en faire un en 3D. Je sais pas, c'est peut-être Metroid Prime qui les intimide, je comprends pas en fait, ou alors c'est peut-être trop chiant d'en faire un en 3D, je sais pas.
Mais est-ce qu'on peut dire que Dark Souls 1 est un Metroid en 3D?
Alors, ça peut être un sujet à débat, disons qu'il a la structure d'un Metroidvania en 3D, mais par contre, il a pas une spécificité pour moi qui est importante dans un Metroidvania, c'est-à-dire les pouvoirs que tu débloques, qui vont te permettre d'élargir tes horizons en termes de level design. Dark Souls, il reprend vraiment la structure du Metroidvania, mais pour moi, c'est plus de l'ordre de l'inspiration, si tu veux, que d'un vrai Metroidvania en 3D,
ouais,
comme
que
on entend.
Dans Dark Souls, on n'a pas de capacité qu'on débloque au fur et à mesure, c'est-à-dire que le personnage aura toujours les mêmes combos, c'est juste les armes qui vont changer, mais c'est vrai que c'est plus le level design qui peut éventuellement rappeler Metroid Prime, même si c'est un FPS et l'autre c'est un jeu d'action-aventure. Mais il y avait un peu cette mécanique-là que j'avais retrouvée dans le premier Dark Souls, mais pas dans les autres.
Donc voilà, déjà c'est suffisamment inhabituel, je pense, pour titiller notre intérêt. Puis ensuite, on peut enchaîner sur le deuxième jeu, je pense. Scourgebringer, moi j'ai juste une chose à dire. Putain, ça de la pêche, hein.
Moi, franchement, je suis vraiment chaud sur ce titre-là. On est vraiment, enfin, quand je dis ça ressemble à Céleste, c'est vraiment le même style. Je pense que ça va révolutionner.
Alors juste, quand tu dis que ça ressemble à Céleste, j'insiste, c'est plus sur la partie,
ouais, graphique, hein. Ouais,
parce qu'en termes de gameplay, par contre, ça n'a rien à voir, quoi, c'est...
Ouais, clairement. Au niveau graphique, c'est vraiment Céleste, Towerfall. Et derrière, ouais, on est sur un jeu de pure action, vraiment en mode Samurai Gun. Enfin, c'est vraiment stylé. Donc en tout cas, j'attends d'en voir plus, mais ouais, je suis vraiment chaud, chaud patate.
Qu'est-ce que j'ajoutais, messieurs ?
Non, moi perso, je suis très chaud pour Recompile, je suis intéressé par le côté Metroidvania en 3D. Et puis Scourgebringer, effectivement, c'est très très beau, après je suis pas sûr que ça soit le type de jeu qui me plaise, donc j'attendrai d'avoir certains retours pour m'y intéresser plus que ça.
Ouais, mais t'as une Switch, donc t'es obligé d'aimer. T'es obligé d'acheter ce jeu.
Non, et puis qui sait, j'avais tellement détesté Metroid Prime que peut-être que Recompile me réconciliera avec les Metroidvania en 3D.
Tu mérites des gifs pour avoir dit ça. Rien pour avoir dit ça.
Bon, messieurs, je vais vous parler dans un instant de Ready or Not. Ready or Not, c'est quoi? C'est un FPS tactique solo avec de l'ambiance, et pour ça, ça m'intéresse. Il y a une vidéo qui est sortie récemment, alors c'est une vidéo où malheureusement, ils n'ont pas pu s'empêcher, tu sais, de faire des séquences de 10 secondes de gameplay, hop, on te remet de la mise en scène, hop, 10 secondes de gameplay, hop, mise en scène, etc. Donc en général, quand il y a ça, c'est qu'on essaie de te faire un effet cache-misère pour pas te montrer tous les trucs qui débloquent. Bon, malheureusement pour eux, ils y sont pas très bien arrivés, parce que notamment, je crois, vers 6 minutes, je vous mettrai la séquence dans les commentaires de l'émission, on voit un personnage qui se tire tout seul une balle dans le pied, par exemple. C'est voilà, enfin, tu sens que il y a encore du taf. Bon, en même
tant
temps,
que c'est pas une flèche dans le genou.
Je serai magnanime, le jeu doit sortir d'ici 2020. Donc ils ont le temps de bosser et on espère qu'ils vont bosser. Évidemment, je ne vous incite pas du tout à aller précommander le jeu sur le site du développeur, parce que c'est un peu pour ça qu'ils ont sorti ce trailer. C'est pour vous dire, allez, venez, venez, vous êtes tellement morts de faim, les fans de FPS tactique, les fans de SWAT, allez, venez, venez chez nous, précommandez le jeu, venez remplir nos caisses. Non, on attendra 2020, vous sortiez votre jeu, et à ce moment-là, on s'exprimera. Par contre, ce que je tenais à dire, c'est que putain, ça fait du bien. Un FPS tactique solo qui essaye de raconter quelque chose. Alors, je dis pas qu'il va le faire bien. Notamment, là, je trouve le trailer assez maladroit en termes de mise en scène. Mais je sais pas, je trouve que c'est tellement inhabituel de nos jours que ça m'intéresse. Et puis, quand même, un FPS tactique solo avec un vrai level design, avec différentes méthodes d'approche, si c'est bien fait. Et j'insiste bien sur si c'est bien fait. Je vous incite notamment à bosser sur votre IA, messieurs, parce que dans un FPS tactique, c'est assez important. Eh bien, ma foi, je suis client.
Ouais, moi je trouve ça aussi assez intéressant. Après, le, je sais pas, le trailer a un truc, alors je sais pas si c'est le bon terme, mais un peu oppressant, pas dans le mauvais sens du terme en fait, dans le sens où vraiment, comme tu as dit, il y a une ambiance, mais c'est vraiment, moi je me suis senti un peu, waouh quoi, ça a l'air lourd.
Bah tu sens que jouer à un membre du SWAT, c'est pas...
Ouais, c'est ce que je me suis dit en fait. C'est pas ma notion du fun, mais ça a l'air quand même hyper intéressant. En tout cas, c'est vraiment un truc qu'on voit plus trop. Donc après, ils ont quand même le temps pour bosser par rapport aux différentes petites errances techniques. Mais en tout cas, ouais, c'est pas mon type de jeu en général. Mais j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner et puis voir ensuite comment ils vont gérer le solo, s'il y aura vraiment une histoire ou autre, enfin voilà.
Moi, il y a un autre truc qui m'intéresse aussi, c'est la richesse des approches tactiques qu'ils ont l'air de proposer. Ils montrent plusieurs exemples au cours de la vidéo, vous verrez, c'est vraiment pensé pour que tu puisses terminer les missions de manière non létale. On te laisse le choix de l'approche et ça, c'est très très intéressant pour moi.
Bah oui, parce que dans un type de jeu comme ça, ce qui est très important surtout, c'est le level design. Donc ça va être intéressant de voir comment ça va être travaillé. Et puis je voulais revenir aussi un petit peu sur ce qu'a dit Dwayne par rapport au côté ambiance très pesante. Moi je suis d'accord avec ce côté-là, mais je trouve qu'il y a aussi un petit côté nanar qui me déplaît pas forcément, mais je sais pas, c'est les gangs et tout ça, c'est un peu cliché années 80-90.
Non mais même dans la narration, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très maladroit quoi. Donc
c'est ça, mais donc
forcément.
Mais après le jeu est super intéressant parce que moi j'avais beaucoup aimé les deux jeux d'Ubisoft qu'ils avaient fait sur l'ancienne génération. Au tout début, c'était Rainbow Six Las Vegas 1 et 2. Et c'est vrai que sur cette génération-là, en fait, il y en a pas vraiment. Il y a Rainbow Six, mais qui est un jeu uniquement multijoueur.
Un jeu à service, hein mamie.
Mais un jeu vraiment solo. Ça manque un petit peu, et moi j'aime beaucoup cette approche-là du jeu, on joue une unité d'élite, le truc qui m'intéresse le plus c'est d'arriver de manière le plus furtive et de désamorcer une situation de crise, et si le jeu est bien fait, en plus ça, on parlait tout à l'heure du jeu, c'était Wrath, qui était vraiment d'une technique abominable, là c'est une technique qui est pas actuelle, mais ça reste quand même un moteur en 3D travaillé, les effets de lumière sont corrects, donc ouais, il y a quand même une certaine qualité à l'intérieur, et je demande pas au jeu qu'il soit forcément... d'un niveau graphique d'un Call of Duty sur cette génération-là, mais au moins il y a un travail qui est fait, donc hâte d'en savoir plus. Mais comme tu l'as dit, pour l'instant, il vaut mieux être prudent parce que l'IA, on ne sait pas ce que ça donne, et le fait que le mec il se tire une balle dans le pied, ça l'a fait un petit peu mal dans le trailer, quoi.
Bah surtout que le peu de séquences de gameplay que l'on a, on a vraiment l'impression que l'IA, à part te foncer dessus, elle fait pas grand-chose, donc j'attends de voir.
Soit te fonce dessus, soit elle attend dans une pièce comme ça, les mains en l'air, mais c'est vrai que on attendra de voir, quoi.
Morren, on va maintenant aborder un sujet, n'est-ce pas, qui nous intéresse. C'est celui du RTS, le cadavre bouge encore, n'est-ce pas. On a deux jeux qui ont été annoncés récemment, ouais. Conan Unconquered et Mards.
Ouais, alors deux jeux qui pour le coup ont une ADN assez similaire puisque ils rappellent tous les deux They Are Billions, qui est sorti l'an dernier, me semble-t-il.
Je sais plus si c'est l'an dernier ou il y a deux ans, mais c'est pas très loin, quoi.
Voilà, c'est il y a pas si longtemps que ça. Et donc pour vous resituer un petit peu ce que c'était que They Are Billions, c'était du tower defense matinée de jeux de stratégie temps réel. Vous deviez évidemment défendre votre base face à des hordes de zombies qui arrivaient de façon continue. Et ben là, c'est exactement la même chose avec Conan Conquered, sauf que évidemment, c'est dans l'univers de Conan. C'est développé par Petroglyph et c'est édité par Funcom. Et Mars, c'est le même délire, sauf que ça se présente sur Mars, avec des vagues de zombies extraterrestres un peu chelous et du ravitaillement qui arrive depuis l'orbite. Très clairement, ça réinvente pas la roue, mais on voulait vous en parler, non pas spécialement parce que les jeux en eux-mêmes nous intéressent, mais sur le côté, est-ce que le RTS serait pas en train de trouver une manière de se réinventer? Parce que bon, les fans de RTS commencent à avoir un petit peu les crocs, on va pas se mentir. Moi, ça m'intéresse d'avoir ce genre de nouvelles possibilités. J'aimerais bien retourner aussi au RTS plus classique, parce que le Tower Defense, c'est bien, mais au bout d'un moment, t'as envie d'un peu plus. En tout cas, ça me parle. Je suis plus intéressé par Mars que Conan Unconquered, personnellement. Je sais pas ce que t'en penses, Tyran.
Alors honnêtement, j'ai pas de préférence. Pourquoi ? Parce que dans les deux jeux qui ont été présentés, on parle pas du tout de campagne solo. Enfin, t'enchaînes des missions sans vraiment d'identité, il y a pas d'histoire, etc. Et derrière, Billions justement est en train de bosser pour le coup sur sa campagne solo. Donc il m'intéresse beaucoup plus depuis qu'ils ont annoncé ça. Pour le moment, ce que j'ai vu de ces deux jeux, pourquoi pas ? Ça peut m'intéresser. Mais moi, je veux des campagnes solo, les mecs. Hein. J'insiste. Je veux pas juste des modes où tu customises ta game, tu la lances et tu survives plus longtemps. Ça m'intéresse pas. Je veux vivre une expérience, en fait, si tu veux, quoi. Surtout que si c'est pour avoir peu ou prou la même expérience que Derrière Billions, sans histoire, sans rien, bah écoute, j'irai jouer à Derrière Billions, quoi. Après, je trouve ça bien que ces jeux sortent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui les ont critiqués parce que ils copiaient des Airbnbs. Bon, déjà, s'il avait fallu appliquer ce raisonnement à l'époque de la grande époque du RTS, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit sur certains jeux, hein, notamment les Command & Conquer, ce genre de choses.
Ou même si on l'applique à l'industrie du jeu vidéo, il y aurait pas beaucoup de jeux, quoi. Il y aurait 4 licences, on n'a pas tant de duels.
Non, et puis, encore une fois, faut voir dans le détail, en fait, est-ce qu'ils ont des idées inédites qui vont ajouter un truc à la formule que proposait Derbyance. J'en sais rien, j'en ai pas vu assez sur ces deux jeux pour pouvoir m'exprimer, tu vois. Je remarque juste que sur Mars, a priori, on sera moins, tu sais, dans un délire, je construis mes murs et je me barricade derrière et j'attends que les autres arrivent. Là, ça a l'air beaucoup plus ouvert, donc faut voir comment ils vont gérer ça. Moi, j'attends de voir, ça peut être intéressant. Mais encore une fois, je veux une campagne solo qui va m'apporter un truc, qui me donne envie de me lancer dans l'histoire.
Ouais, ouais, parce que moi, je te rejoins complètement sur l'aspect solo. Personnellement, j'ai toujours adoré les jeux de stratégie, mais j'ai jamais aimé y jouer en ligne, sur du ladder, etc. Moi, j'étais beaucoup plus sur les expériences solo. La grande époque où je jouais à Age of Empires 2, notamment, enfin, voilà, je jouais qu'à ça, quoi. Et il y a quand même moyen de raconter des choses avec un RTS. Et des choses vachement intéressantes de faire des mises en scène aussi qui sont hyper impactantes et tout. Alors on peut le critiquer évidemment pour sa campagne solo, mais Starcraft 2 avait des choses assez intéressantes à faire aussi en termes de mise en scène sur les campagnes solo notamment.
Et puis Warcraft 3 quand même, les mecs, Warcraft 3
Donc il date un petit peu Warcraft 3 quand même.
Ouais, mais c'est la meilleure campagne solo ever, tu veux dire quoi.
Le jeu est sorti en quelle année, 2005, c'est ça?
Oui, mais en même temps, le RTS, c'est mort depuis combien d'années?
Non, mais c'est, voilà, non, mais ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un autre challenger dans le domaine, quoi.
Ouais. Alors, c'est un jeu qu'on cite assez peu, en général, quand on parle de RTS, mais c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué, et alors qu'il n'y avait pas vraiment de campagne solo en tant que tel, mais qu'il y avait un mode campagne qui était hyper intéressant, c'est Le Seigneur des Anneaux, la bataille pour la Terre du Milieu. Il y avait un mode campagne où tu avais accès à toute la carte de la Terre du Milieu. Et tu faisais bouger tes armées en fait en fonction des endroits où tu voulais aller, et c'était hyper intéressant. Certes, il n'y avait pas d'histoire en tant que telle, mais il y avait cette capacité finalement à te raconter l'histoire toi-même, et je trouvais ça hyper intéressant. Alors, il y a peut-être moyen d'adapter ce système-là aussi au RTS de nos jours, mais je pense que c'est un genre de jeu qui mériterait de retrouver un petit peu ses lettres de noblesse, quoi.
En campagne qui m'ont marqué, je citerai aussi Warhammer, l'ombre du rat cornu. Alors qui m'a pas tellement marqué pour ce qu'elle avait à proposer en termes d'histoire, etc., mais surtout en termes de level design. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant avec les campagnes solo, quand elles sont bien faites. J'entends pas comme Total Alienation, qui, je tiens à le dire d'avance, est un de mes RTS préférés, mais qui avait une campagne solo totalement naze. Warhammer l'ombre du raccornu, on te mettait dans des situations désavantageuses, on te demandait d'exploiter la topographie du terrain, parce que c'était un des rares RTS de son époque, à proposer, tu sais, différenciation en fonction de où t'étais placé. Si t'étais placé en hauteur, etc., t'avais un avantage fondamental sur ceux qui étaient placés en contrebas, ce genre de choses. Et du coup, ils profitaient du relief du terrain pour te proposer des maps avec un level design intéressant. Et c'est aussi possible de faire ça, tu vois, dans des campagnes solo. Alors que dans des RTS 100% multi, le problème de ces trucs-là, c'est que tu peux pas proposer ce genre de challenge ou, enfin, voilà, il y a tout un pan du RTS qui n'existe plus depuis qu'on se concentre essentiellement sur le multi dans ce genre-là. Mmh. Bon, en plus du fait que ce genre est quasiment mort, hein, soyons très honnêtes.
Oui, le truc, c'est que le RTS multi, il est phagocyté par le metagame, en fait. Le truc qui te force à adapter une stratégie parce qu'elle est standardisée selon le metagame actuel, parce qu'il faut jouer comme ça si tu veux gagner. Ça, moi, ça m'intéresse absolument pas. Je suis beaucoup plus intéressé par ce qu'il est possible de faire en solo. Parce que en solo, du coup, tu t'affranchis un petit peu de ces règles-là, et tu joues comme t'as envie de jouer. Je me faisais des petits tower defense moi-même, en fait, dans Age of Empires 2, par exemple. J'avançais mes lignes de tour pour ensuite encercler l'ennemi. Enfin, moi, je kiffais ça, tu vois. Personne ne jouerait de cette manière-là, normalement. Mais ça me faisait kiffer de le faire, tu vois. Et ça manque un peu. Ce côté un peu bac à sable que tu pouvais connaître aussi dans le RTS de l'époque, quoi.
Moi, je suis d'accord avec vous. Après, je pense qu'il y a toujours cette... lorsqu'un genre revient, je pense qu'il y a toujours ce côté où, dans un premier temps, on va revenir un peu aux bases et essayer d'acquérir, en fait, un nouveau public avant de gagner en profondeur. Parce que moi, par exemple, je sais que j'ai joué un petit peu à Northgard. Donc on est sur un truc assez simple, quoi. Et pour moi, qui suis pas un gros joueur de RTS, bah c'est le type de truc un peu porte d'entrée, quoi.
Bah un peu à la Command & Conquer à l'époque, tu vois. Enfin, c'était des RTS très grand public.
Voilà. Donc, et ouais, donc je pense qu'il y a... Parce que bah, Northgard, il fonctionne assez bien. Zerbillions aussi. Donc je pense que, ouais, hein, il y a moyen que le genre revienne et puis qu'on ait des gens qui essayent après de lui faire regagner ses lettres de noblesse, entre guillemets.
Et puis peut-être qu'un jour, on aura enfin un successeur au meilleur RTS jamais créé. J'ai nommé Supreme Commander Forge Alliance, n'est-ce pas?
C'est pas Warcraft 3?
Non, non, c'est le meilleur RTS jamais créé, j'insiste, c'est Supreme Commander Forge Alliance, le digne successeur de Total Annihilation, qui est aussi un des meilleurs RTS jamais créés, évidemment, voilà, donc je suis bien entendu totalement objectif quand je dis ça, fermez vos gueules.
Non mais moi ça me rassure parce que j'ai pas fait beaucoup d'RTS, mais Total Annihilation c'est un des seuls que j'ai fait, donc je suis content. Et Age of Empires 2, voilà, donc j'ai mes classiques, ça me suffit.
Pour continuer vite fait là-dessus, y a un truc que je trouve assez ouf. Le jeu vidéo a toujours continué à produire des jeux de gestion, mais c'est plus ou moins arrêté de faire des jeux de stratégie. Et je comprends pas vraiment, parce qu'il y a quand même des ponts à établir entre ces deux genres-là.
Ah, moi, j'ai peut-être une explication, si tu veux.
Ouais, vas-y.
Dota. Dota, LOL, il y a beaucoup de joueurs de RTS qui sont passés à ça, en fait.
Ouais.
Moi, c'est l'explication que j'ai. Ce mode de Warcraft 3 a fait qu'il y a beaucoup de joueurs de RTS qui se sont intéressés spécifiquement à ce type de gameplay-là et qui, du coup, ont complètement switché. Et pour moi, c'est pour ça que, à mon avis, le problème du RTS, c'est pas que c'est trop compliqué, parce que, comme tu dis, des jeux de gestion ultra velus, mais qui se vendent mais vachement bien, il y en a encore aujourd'hui, quoi.
Ouais, c'est clair.
Mais à mon avis, c'est surtout qu'il y a eu un switch au niveau du public qui voulait, tu sais, un gameplay plus nerveux, plus rapide, etc. Et ça s'est déporté sur LOL, quoi, en fait. LOL, Dota, etc., quoi.
Est-ce que je peux rajouter quelque chose par rapport à ça? Pas forcément sur le type du RTS, mais par rapport au fait qu'un, pour moi, un genre ne meurt jamais vraiment. Par exemple, les shoot'em up, c'est pas un genre qui est très actuel aujourd'hui, mais on le retrouve souvent dans des jeux à différentes formes. Par exemple, on les retrouve dans des beat'em all, dans Bayonetta, il y a certaines séquences qui sont très inspirées des shmup, dans Nier Automata. Donc, il y a toujours ce genre qui est là, mais de manière très diluée. Et je pense aussi notamment aux mécaniques de RPG très old school, et ben, qu'on retrouve aujourd'hui dans des jeux très grand public. Donc, le genre, si tu veux, ne meurt pas vraiment. Il est réutilisé juste de manière détournée. On utilise certains codes qui étaient là à l'époque, mais c'est plus le joueur roi. Et je pense que vraiment, un genre comme ça, ça peut pas disparaître. Et je pense vraiment que faut pas voir le genre RTS vraiment comme mort, mais plutôt comme un genre qui est peut-être en phase de transition et qui pourrait revenir sous une autre forme, quoi.
Ouais, mais après, ce qui est dur, c'est que quand t'es fan d'un genre, t'as pas envie de le voir diluer, t'as envie de voir une vraie grosse expérience, quoi. T'as pas envie de voir des mécaniques d'RPG dans un jeu de foot, quoi. Tu préfères avoir un gros RPG. Enfin, non, je déconne avec le jeu.
Si j'avais envie de troller, j'ai pas forcément envie de voir des mécaniques d'RPG dans Assassin's Creed, hein, mais
non, mais, Gwen, tu parles de mécaniques de RPG dans les jeux de foot, sache que les jeux de foot utilisent des mécaniques de RPG.
Oui, j'imagine bien, oui.
Bon, messieurs, je vous propose qu'on passe vite fait sur la dernière sortie du patron de From Software, qui personnellement m'attriste, mais bon, allez, Dwayne, vas-y.
On va nuancer un peu, c'est pour ça j'ai mis dans le conducteur, comme je sais, en fait.
Tu étais l'élu. Pourquoi?
C'est pour ça, en fait, dans le conducteur, quand j'ai mis le truc, j'ai mis, entre parenthèses, propos à nuancer, parce que je sais qu'on a les deux, là, mais bon. Alors, on a Hidetaka Miyazaki qui s'est exprimé chez The Telegraph, qui est un journal anglais, enfin un site anglais. Donc, c'est une longue interview, et donc, ce qui a été repris beaucoup, c'est cette partie où il disait qu'en fait, il n'était pas contre les mécaniques de Battle Royale et de jeux à service.
Il n'est pas contre, il dit qu'il trouve ça intéressant quand même, hein. C'est pas tout à fait...
Voilà, il dit qu'il trouve ça intéressant. Qu'effectivement, c'est des choses qui sont fun et qui l'envisagera peut-être un jour. Lui, après, s'il le fait, ça sera quand même quelque chose d'assez différent et à la sauce From Software. Après, ce qu'il dit quand même, pour nuancer justement, c'est qu'en fait, aujourd'hui, From Software fait partie de ces gens qui font toujours des jeux solo, que c'est toujours un genre qui est quand même... gros sur la scène du gaming, c'est pas quelque chose qui est en train non plus de mourir. On a quand même toujours un vivier de jeux solo qui est assez vif. Il dit qu'ils vont continuer quand même à partir sur cette voie-là, même si voilà, le jeu à service, ben il ne l'exclut pas. Et qu'est-ce que ça vous dit, cette histoire?
Tu veux que je commence?
Ouais, vas-y.
Moi,
il est en PLS,
personnellement, je trouve ça quand même intéressant, mais par exemple, moi, il y a un type de jeu que j'aurais bien envie de faire, c'est For Honor. J'ai envie de jouer à des types de jeux comme ça où il y a des affrontements directs et où c'est le placement qui va être prédominant. Après, donc, il faudra voir, juste parce que moi, le côté qui me gêne, c'est le côté, en fait, jeu à service. Mais on va dire, si ça serait un jeu avec les mécaniques d'un Souls-like, avec plusieurs joueurs sur une même partie. Et d'ailleurs, je me demande même si, par exemple, pour Ubisoft, s'ils font un For Honor 2, s'ils vont pas aller dans cette voie-là, faire un jeu à service avec un mode de Battle Royale, vu que c'est un mode qui cartonne beaucoup en ce moment, s'ils seraient pas tentés aussi de prendre cette tangente-là, quoi.
Bon, alors, je vais essayer de nuancer mes propos, mais moi, si vous voulez, des jeux à service, j'estime qu'il y en a suffisamment pour que, bon, voilà, vous comprendrez ce genre de propos mal triste malgré tout, parce que je pense que on a déjà trop de jeux à service. Et que, bon, s'il vous plaît, lâchez-nous la grappe avec ça, quoi. Après, connaissant le bonhomme, je serais curieux quand même de ce qu'il ferait, parce que c'est quand même un amateur de livres dont vous êtes le héros. Il parle bien de jeux de rôle, dans un jeu à service, etc. Donc je serais curieux de voir qu'est-ce qu'il pourrait bien avoir comme idée, parce que quelque chose me dit que si c'est lui qui s'en occupe, ça sera quelque chose de très inhabituel. Donc ça pourrait être intéressant. Maintenant, en mettant mes préjugés de côté, j'aimerais juste dire une chose. Vous êtes déjà pas foutu de gérer le multijoueur dans vos jeux actuels. Alors avant d'envisager le jeu à service, il va falloir sérieusement penser à monter en gamme, hein, parce que voilà.
Ah, mais ça, je pense que ça serait une priorité par rapport à un jeu à service. Après, moi, j'ai pas envie que From Software délaisse le jeu complètement solo, parce que voilà, là, il y a Sekiro qui va sortir bientôt et j'en peux plus de l'attendre. Mais c'est vrai que moi, je suis particulièrement friand de ce que fait ce studio. Dark Souls a quand même apporté des choses intéressantes dans le monde du jeu vidéo multijoueur, même si tu jouais en solo dans ta partie. Les messages que tu laissais, le fait de pouvoir envahir un monde ou bien te faire envahir. Il y avait des idées qui ont été vraiment très intéressantes, et jouer en multijoueur à Dark Souls, c'est pas pareil que jouer en mode solo, parce que d'un coup tu peux te faire envahir, t'es pas prêt, t'as pas ton équipement sur toi que tu voulais exactement, donc du coup il y a une phase de stress qui arrive, et c'était quelque chose d'assez chouette. Il y a que dans les jeux de Miyazaki que j'ai ressenti ce genre de choses là.
C'est pour ça que je dis que s'il fait quelque chose, à mon avis, ça sera quelque chose d'inhabituel. Par contre, là je veux nuancer, c'est que quand tu vois, par exemple, comment Dark Souls est pourri par le shit sur PC, Voilà, enfin, il y a un certain nombre de compétences qu'ils n'ont pas en interne et qu'ils négligent habituellement, sur lesquelles ils vont devoir travailler. Ce qu'on peut tolérer dans un jeu principalement solo comme Dark Souls et où t'as une composante multi qui est optionnelle, ce sera pas tolérable dans un jeu à service multijoueur.
Ouais, mais après par exemple, admettons qu'ils travailleraient sur un futur jeu comme ça avec Activision, parce que là ils sont en bis-bis avec eux. S'ils travaillent avec Activision, et Activision il y a quand même une expérience intéressante sur le multijoueur avec Call of Duty, ils ont quand même de l'expérience dessus, il faudrait qu'ils...
Ouais, ils mettront quelques petits toolbox au passage.
Non mais bien sûr, il y aura toujours la carotte habituelle qui est la lootbox dans ces jeux-là, mais il faudrait qu'ils puissent avoir un studio qui soit vraiment compétent dans le multijoueur et qui s'occupe de cette partie-là et de la structure du online qui leur monte, parce que c'est vrai que les Japonais, sans faire de racisme primaire ou quoi que ce soit, ont du mal avec les jeux multijoueurs, en règle générale.
Attends, même Monster Hunter World, qui est pourtant le jeu par excellence pensé pour une multi, il y a des trucs qui font super schnapps hein, dans la gestion du mode multijoueur, quoi. Donc,
Ouais, voilà, donc c'est pour ça qu'il faudra voir vraiment ce qu'ils proposent. S'ils proposent vraiment quelque chose d'unique et qu'il arrive au bon moment avec une offre vraiment intéressante à ce moment-là, pourquoi pas.
Voilà, après, ce qu'il y a à retenir, c'est quand même qu'on est sur un vivier de jeux solo, et même si on en a toujours pas mal, on reste quand même en infériorité, donc le fait d'avoir un studio talentueux comme From Software partir sur autre chose, ça ferait quand même un peu chier.
Mais après, s'ils sont pas trop bêtes,
même s'ils peuvent faire quelque chose d'intéressant, quoi.
S'ils sont pas trop bêtes, ils vont pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Ils ont plusieurs équipes From Software.
Oui,
par exemple,
sûr.
Le Dark Souls 2, c'était l'équipe B qui avait fait le jeu. Et je pense qu'à mon avis, il y aura des équipes dédiées aux jeux multijoueurs. Ils continueront quand même de faire leur jeu solo de leur côté, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'espère, c'est ce que je souhaite. Hein. Après, voilà, on n'est pas à l'abri des mauvaises surprises. Hein.
Bon messieurs, on va enchaîner. On va vite fait passer sur Devil May Cry 5 parce que en dehors du trollolo, je veux dire, voilà, tu vois, c'est le Capcom que j'aime pas celui-là. Il y a le Capcom que j'aime bien sur Resident Evil 2 et il y a le Capcom qui me donne envie de lui foutre des baffes. Alors, on a Devil May Cry 5 qui est sorti, qui est un jeu qui a de très bonnes reviews. Ce à quoi honnêtement je m'attendais pas parce que je vous avoue que moi, ce que j'avais vu en termes de vidéos de gameplay m'attirait mais vraiment pas. Par contre, il y a un truc sur lequel je voulais revenir, c'est que, bon, ils ont fait une petite boulette chez Capcom. Apparemment, il y avait une version sans DRM téléchargeable à partir de Steam. Donc du coup, manque de bol, ils ont mis en place des nouveaux après. Mais sauf qu'il y avait des gens qui, entre-temps, ont récupéré la version DRM free. Et là, les gens, ils ont remarqué un truc. C'est bizarre quand même. Sur les machines un peu anciennes, la version DRM free, elle tourne à 10-20 FPS de plus, quoi.
Ah oui.
Ouais, c'est ballot, hein. T'achètes ton jeu légalement
c'est
et tu te fais baiser.
Hein. Bon, alors, je vais quand même nuancer. La version PC de Devil May Cry 5, a priori, est plutôt bien optimisée. Elle est aussi bien optimisée que Resident Evil. Et Resident Evil, chez moi, il tournait comme un charme. Mais, par contre, ceux que ça affecte vraiment, ce sont ceux qui n'ont pas forcément des PC récents. Et ça, c'est quand même assez problématique sur l'optimisation, messieurs de chez Capcom. 10-20 FPS. C'est pas négligeable, surtout dans un jeu comme Devil May Cry, où la fluidité est quand même très importante.
Ouais, c'est un beat'em all, voilà. Donc les 60 FPS, ils sont très importants. D'ailleurs, même les versions consoles tournent en 60 FPS. Mmh. Et ça serait intéressant que tu mettes dans le lien du podcast un article qui montre comment faire pour justement passer sans DRM pour ce jeu-là, parce que le lien que tu m'as donné, ils disent comment faire pour pouvoir jouer au jeu sans DRM. Donc si vous voulez faire des MC5 et que vous jouez sur PC, on vous mettra le lien dans le podcast pour que vous puissiez justement profiter du jeu... on va dire, dans des conditions optimales.
Ouais, alors, sachant que je sais pas combien de temps cette manip sera valide, parce qu'en gros, il faut passer par Steam et faire des trucs, et à mon avis, Capcom, ils vont vite retirer ça de Steam, mais je ne doute pas que les gens derrière vont remettre ça d'une manière ou d'une autre, voilà. On vous mettra les liens qu'il faut, n'est-ce pas? Oui, non, parce que franchement, tant qu'à faire, Capcom, limite... J'aurais envie de dire à Capcom, bon, écoutez les gars, vous avez l'air un peu con là, votre jeu maintenant il est disponible sur tous les sites de piratage en DRM free, est-ce que vous pourriez pas être intelligent et enlever le DRM du jeu? Tu vois, ce serait...
Non.
Pas con. Hein.
C'est des Japonais, hein, ils sont têtus, donc ils... non.
Alors, attention, hein, y a des Japonais qui ont changé d'avis. Par exemple, Sega récemment a retiré les DRM de Yakuza, c'est d'ailleurs pour ça que je vais acheter les jeux là, et ils l'ont retiré aussi de Sonic. Donc
bon,
peut-être que ils vont être moins cons, ils vont commencer à réfléchir, quoi. Voilà.
Ça serait bien, ça serait bien. Pour les joueurs, ça serait bien, en tout cas.
On va passer à un sujet beaucoup plus sérieux, messieurs. On va parler des licenciements chez Blizzard, Morhen, suivi du dossier qu'on avait déjà évoqué ici même.
J'ai l'impression d'être un agent des ressources humaines chaque semaine. <c'est>... alors cette semaine, ouais, on sait en fait exactement dans quelle zone les jobs ont été perdus chez Blizzard. Du côté des États-Unis, chez Blizzard, il y a 209 emplois qui vont être perdus sur les 800. En France, sur les 400 que compte la succursale de Versailles, on a 134 qui sont concernés. On a le détail sur la partie américaine. Comme on vous le disait la dernière fois, c'est beaucoup plus les postes qui gravitent autour du développement qui sont touchés. Particulièrement le service informatique, le service marketing, le service des ressources humaines, de façon assez ironique, l'équipe de publishing et aussi du côté de la finance, mais aussi un petit peu chez Battle.net dans l'assurance qualité et dans la team Live Experience. Donc
tout ce qui est e-sport, je pense, a priori.
Ouais, a priori. Bon, il y a une citation de la part d'Activision Blizzard qui a été publiée, mais on s'en fiche un petit peu. Il raconte grosso modo que toute cette restructuration va servir à construire les fondations du futur Blizzard.
Soit dit en passant, je crois qu'il y a une autre citation, il y a un rapport qui est sorti, un rapport d'interne d'Activision, où ils disent en gros, oups, on a peut-être fait une connerie, parce que en gros, se séparer de son personnel, attends, virer les gens, peut-être que ça peut avoir un impact négatif sur le long terme, sur l'activité de la société, d'accord, bon.
Bah, disons que quand tu fais partie d'une boîte qui marche excellemment bien, hein, pour les résultats 2018, on va les rappeler, c'est 7,5 milliards de dollars de recettes. Et c'était 150 millions de dollars de plus que les analystes de l'entreprise. Hein. Quand on me dit que, en fait, on va restructurer à hauteur de 10% du total d'Activision Blizzard, enfin, il y a des centaines de personnes qui sont concernées là maintenant, mais est-ce que toi, si t'es pas concerné par ces licenciements, t'as vraiment envie de continuer dans une boîte qui peut te licencier du jour au lendemain? Voilà, c'est aussi ça la question qu'il faut se poser, quoi.
Ah, et puis aussi, faut voir l'impact que ça a eu sur l'image de Blizzard, parce que Blizzard, c'est un peu le DreamWorks du jeu vidéo, tu vois. Enfin, c'est des mecs très pointus qui font des choses qu'en gros, en dehors de Rockstar, personne ne fait. Enfin, quand Blizzard a annoncé un jeu, jusqu'à maintenant, c'était la magie dans les yeux, tu vois. Et avec tous les événements qu'il y a eu ces derniers mois, entre l'histoire de Diablo Immortal, les employés qui sont virés comme des vieilles chaussettes, les articles qui sont sortis chez Kotaku, on te dit que c'est la finance qui commence à prendre le pas chez Blizzard. Ah, je suis désolé, c'est plus le DreamWorks du jeu vidéo, ça fait plus rêver, quoi.
Bah, la preuve, hein, que c'est la finance qui commence à prendre le pas. Hein. Et c'est marrant parce que pendant des années, on les a crus un peu immunisés au potentiel de nuisance d'Activision, mais là, ça y est, hein, on y est, quoi.
Mais je pense que vraiment pendant cette période-là, ils étaient immunisés entre guillemets. Mais là, au bout d'un moment, ils se sont dit bon, comment est-ce qu'on peut presser le citron un petit peu plus? Et je rappelle aussi quand même que malgré toute cette vague de licenciements, les investisseurs ont quand même eu le droit à une augmentation des dividendes de 9%. Voilà, je dis juste ça au cas où.
L'indécence.
C'est ça. Allez vous faire foutre.
Et, ah oui. Et aussi, moi, je pense pourquoi il y a eu ce changement chez Blizzard. Parce qu'il y a des jeux qui ont moins performé que ce qu'ils attendaient. Par exemple, Heroes of the Storm. Mais le truc, c'est que, en fait, Activision est une boîte qui n'accepte plus l'échec. Regardez ce qui se passe avec Destiny 2. Ils se sont quand même fait de l'argent, même si Destiny 2 a été très critiqué, etc. C'est pas non plus une catastrophe en termes de revenus, Destiny 2. Mais ils s'en sont séparés. Pourquoi? Parce que ça ne rapportait pas assez à leurs yeux. Et qu'en plus, tu comprends, Bungie, c'est un studio indépendant. On peut pas les mener à la baguette. Donc ça fait un peu chier, quoi, tu vois.
C'est ça.
Enfin bref, messieurs, on va terminer, je pense, avec Anthem. Donc bon, on s'est dit, chez Game Info, c'est dingue, ça. D'habitude, on est toujours les premiers à gueuler, et là, on n'a pas tiré sur un thème encore, et pourtant, Dieu sait qu'il mériterait, quoi. Donc écoutez, on va rattraper... on va rattraper notre retard, n'est-ce pas? On va tirer sur l'ambulance en thème, qui fait planter des PS4. On s'est dit que c'était la bonne occasion, parce que là, quand même, bon, au départ, on était sympa, tu vois, c'est pas terrible, bon, ça arrive de se planter, ok, BioWare va bientôt mourir, bon, voilà, quoi, c'est la prochaine victime d'Electronic Arts. Bon, jusqu'à maintenant, on s'est retenu, mais là, quand même, je veux dire, faire un jeu qui fait planter des PS4, je crois que j'avais pas vu ça depuis No Man's Sky. Ah d'ailleurs, c'est bizarre, c'est exactement la même situation, Sony rembourse des joueurs apparemment. Cher comme No Man's Sky. Je sais pas, vous avez pas honte, Electronic Arts? Non, non, mais parce que quand même, c'est, je rappelle que la PS4, c'est un hardware qui est fixe. Et normalement, t'as des gens, ça s'appelle la QA, qui sont là pour que ce genre de choses n'arrive pas. Et pour moi, c'est un phénomène qui commence à se généraliser, en fait. Et c'est ça qui m'inquiète. C'est que regardez ce qui s'est passé avec Fallout 76 récemment. On est en train d'assister à l'arrivée de l'accès anticipé sur les AAA. Pour moi, c'est ça qu'on est en train de voir. Parce que je suis désolé, fut une époque, sur des jeux AAA, on n'aurait pas eu ces problèmes-là. Et quand je vois ce qui se passe ces derniers temps sur Fallout 76, sur Anthem, enfin sur tous ces gros jeux à service dont on sait qu'ils vont sortir dans un état déplorable, où t'as des gens qui défendent ces jeux en disant « Oui, mais attends le patch Day One, tu vas voir, ça va régler tous les problèmes. » Et où tu te rends compte que, ben non, en fait, et que le jeu, il sort dans des états où même sur console, on arrive à faire planter des PS4, quoi. Il y a une généralisation de ce phénomène que je trouve, mais alors très inquiétante, surtout qu'en plus, les mecs se planquent même pas derrière le logo Early Access pour dire aux gens, attention, le jeu qui va sortir, il est pas fini. Non, non, on assiste de plus en plus à un phénomène où on a des jeux à 60 boules qui ne sont pas en accès anticipé et qui sont dans un état déplorable, et ça, ce n'est pas acceptable.
Oui, mais là, pour un thème, ce qui est pire, c'est que déjà, ça peut provoquer un crash de la PS4. Bon, ça encore, tu te dis, ok, pourquoi pas, je redémarre la console, c'est chiant, ça devrait pas arriver, mais bon, tant qu'à faire, je relance la partie. Mais le pire, c'est que ça peut endommager ta console, voire la détruire complètement. Mais vous inquiétez pas, parce que Anthem proposera quand même des compensations in-game aux joueurs. Et ça, si c'est pas beau, ils ont niqué la PS4, mais ils te proposent quand même une nouvelle skill d'armure. Si c'est pas bien, non mais franchement, allez vous faire foutre quoi. Un jeu ne devrait pas faire planter ta console, la détruire. Tu as dit pour des jeux AAA, mais même pour des jeux indépendants, Electronic Arts, ils ont quand même le moyen de faire du qualité test pour le jeu. Ça ne devrait pas arriver. Mais le problème, c'est que eux, ils se sont tellement pressés à mettre une date fixe aux développeurs. Et pendant ce temps-là, ça c'était un petit peu con parce que le timing était pas bon, parce qu'ils ont sorti Apex qui a commencé à cartonner. Du coup, ils auraient pu dire, bah si on profitait pour repousser le jeu et justement peaufiner la technique et voir s'il y a pas des trucs qui pourraient arriver. En même temps, nous, ça nous permet de peaufiner le jeu pour qu'il sorte dans des meilleures conditions. Mais non, le jeu, il arrive dans un état déplorable. Ils auraient pu dire, ok, le jeu, il est repoussé dans 2 mois. Mais dans 2 mois, quand le jeu, il arrive dans un état nickel. Mais non, voilà. Mais
surtout qu'en plus, tu dis que les mecs ne réfléchissent pas, quoi. Parce que, comme tu le soulignes, Apex est sorti en même temps. 2 jeux à service qui sortent en même temps.
Oui, non, mais
si on va dire, oui, Apex, c'est un FPS, Anthem, c'est un shooter-looter. Mm-hmm. Mais je suis désolé. On a des goûts différents. Ça peut nous arriver de jouer à looter-shooter. Ça peut nous arriver de jouer à FPS. Et si on joue à Apex, et qu'on y consacre énormément de temps, on en aura beaucoup moins pour Anthem, tu vois, et inversement. Et je ne comprends pas cette stratégie chez Electronic Arts qui consiste à sortir 2 jeux à service en même temps, qui potentiellement peuvent se bouffer leur public, et dont un n'est pas bien fignolé, alors que l'autre est super polish en plus, tu vois. Enfin, moi, il y a une dichotomie là-dedans que je ne comprends pas chez Electronic Arts, quoi. Excuse-moi, Dwayne.
Ouais, mais ça encore, en fait, c'est les histoires de la bourse, et ensuite... ce que EA fait à chaque fois, c'est-à-dire pousser leur Frostbite, même quand c'est pas nécessaire et quand ça ne fit pas avec le jeu. C'est-à-dire qu'il y a justement Amy Henning qui, juste avant la sortie d'Anthem, parlait du fait que Frostbite était pas adapté au TPS. J'ai pas mal testé justement Anthem. Et effectivement, t'as des temps de chargement, tu te dis, j'ai jamais vu ça depuis ma PS2.
Et en plus, quand tu dis qu'il y a des temps de chargement, je précise une chose. Il y en a tout le temps des temps de chargement dans ce jeu.
Alors, je te donne un exemple. T'es dans un espace ouvert, t'arrives dans un couloir, donc t'as un chargement avant d'arriver dans le couloir, t'as un couloir de 10 mètres. Ensuite, quand tu sors du couloir de 10 mètres, tu rentres dans une autre pièce, t'as un autre chargement, et les deux chargements, ils sont de 30 à 45 secondes. Donc, c'est
et
la
même,
folie.
Et même, apparemment, il y a des chargements qui dépassent la minute. Enfin, et quelqu'un qui s'est amusé à chronométrer sur YouTube une vidéo, je voyais le temps de chargement 1 minute 40, alors que en plus ça c'était une transition de zone, c'était même pas un temps de chargement entre le moment où tu acceptes une mission et le moment où on te téléporte vers ce lieu.
Et donc rapport avec la bourse, c'est le fait qu'en fait EA, même si ils ont la thune pour pouvoir patienter et le sortir, bah il y a les bilans financier, faut que ça sorte à tel moment.
Parce qu'il faut gonfler les chiffres. C'est ça le truc. Il faut gonfler les chiffres. Mais le truc, c'est que sur le long terme, tu niques ta marque. C'est complètement débile.
C'est ça. Exactement. C'est que ça n'a pas de réel sens. Et en plus, comme on l'a dit, ce qui est encore plus bizarre, c'est toujours cette dichotomie. Ils laissent Apex utiliser leur moteur qui est à partir du Source Engine, il me semble.
Ouais.
Et derrière ça, ils obligent en fait BioWare à utiliser Frostbite, qui on l'a déjà vu, ne fonctionne pas avec le TPS. Donc pourquoi?
Il va falloir qu'ils plantent combien de jeux comme ça pour qu'ils se décident à ne plus forcer le studio.
Vous vous rappelez de Frostbite, Titanfall 2 qui est sorti entre Battlefield et Call of Duty, alors que là c'était 3 FPS qui pourraient attirer le même public,
sachant que Battlefield appartient aussi à Electronic Arts.
C'est ça. Mais voilà. C'est une balle dans le pied eux-mêmes en fait. Titanfall c'était une licence qui était en train de naître. Mais ils se sont dit, on va quand même la sacrifier pour, voilà, comme ça on a sorti le jeu. Mais alors qu'ils auraient pu très bien attendre un peu plus longtemps pour sortir le jeu. Surtout que le pire, c'est que moi, ce qui m'énerve, c'est que Titanfall 2, apparemment, il avait le potentiel pour être un très bon jeu multijoueur et il y avait une très bonne campagne solo. Sauf que moi, à l'époque, quand j'ai entendu le jeu, personne n'en parlait et tout. Et c'est après qu'on m'a dit, ouais, Titanfall 2, il a une campagne solo qui vaut le coup. J'ai fait, putain, il a une campagne solo. Et puis c'est vrai qu'en fait, finalement, le jeu est pas mal. Et là, tu te dis, putain, mais les mecs, ils ont de l'or dans les mains, ils font quand même de la merde.
Morwen.
Qu'est-ce que tu veux rajouter à ça? Honnêtement, vous l'avez dit, quoi. Je rejoins tout à fait l'idée qu'il fallait décaler Anthem grâce au succès d'Apex Legends, parce que avec Apex Legends, EA a pris une belle valeur boursière, donc je pense que les gens qui étaient derrière l'action, ils étaient là en mode c'est cool en fait. Et au final, est-ce que Anthem aurait pas pu avoir 6 mois de plus? Je pense que si. C'est du gâchis, et on en revient toujours à la sempiternelle question, c'est qu'est-ce que va devenir BioWare derrière ça, quoi. Donc, ça fait un peu chier.
Parce
quoi.
Que pour un moment, on nous dit, oui, l'avenir de BioWare n'est pas menacé. Je peux dire que si le jeu, il bide mes puissances de 3 milliards, ouais, il est pas menacé, mais si ça finit comme Visceral, où on laisse une dernière chance au studio, et on fait tout pour saboter cette chance-là, voilà.
C'est
bon,
sûr.
Messieurs. Je pense que nous sommes suffisamment écœurés pour cette semaine pour clôturer cet épisode.
Il faudrait finir sur des bonus parce que là, les gens vont nous prendre pour des blasés.
Écoute, le truc, en fait, c'est inhérent à la structure du podcast. C'est-à-dire que notre podcast, il commence par les indés, il finit par les gros, n'est-ce pas? Et malheureusement, les gros, en ce moment, ils font de plus en plus de la merde. Tu veux que je te dise quoi, moi? À un moment donné, moi, je veux bien être positif, hein, mais s'il n'y a rien de positif à dire, je vais pas le dire, quoi. Non mais c'est ça le problème, quoi. Par exemple, moi, quand Capcom fait des trucs super bien, je le dis, parce que putain, c'est tellement rare un éditeur qui fait des bonnes choses qu'il faut le souligner. Mais par contre, moi je suis désolé, je vois de plus en plus les gros éditeurs qui font n'importe quoi pour satisfaire leurs investisseurs. Et voilà, le podcast, il se terminera malheureusement, bien souvent, par ce genre de choses, on râle, parce que les éditeurs font de la merde, c'est tout, voilà. Allez, rendez-vous la semaine prochaine, ciao.
Salut.
Salut.
Ah, dommage qu'il n'y a pas de test cette semaine, sinon on aurait pu finir peut-être sur une note positive. Salut à tous.